Et donc, je suis très heureuse de présenter aujourd'hui Basile, qui nous fait l'amitié de venir parler de sa spécialité, à savoir le rapport entre texte et image, dans le cadre du séminaire Flaubert. Basile Pallas est agrégé de lettres et docteur de l'Université Bordeaux-Montaigne, où il a soutenu une thèse en 2017 consacrée au rapport entre littérature et photographie au 19e, sous la direction de Pierre Laforgue. Et cette thèse a été remaniée pour donner lieu à un ouvrage qui a été publié en 2022 aux éditions des Classiques Garnier. Et l'ouvrage s'intitule Le miroir aberrant. Cette année, Basile coordonne avec Vérane Partanski le séminaire de l'équipe Goncourt, séminaire consacré cette année à la question de la copie, et donc de la reproduction. On voit bien le lien avec la photo, que le séminaire peut avoir. Séminaire qui se clôturera par une journée d'études le 16 mai à Paris. En général, le séminaire Goncourt est en modalité hybride, donc je ne manquerai pas de vous tenir au courant des événements et du programme de cette journée d'études. Et aujourd'hui, Basile va nous parler du portrait funéraire et de sa liaison avec un corpus flaubertien, mais peut-être pas que. Voilà, donc Basile, merci et on t'écoute avec plaisir.
Merci beaucoup Florence Pellegrini pour cette présentation et puis merci aussi à Juliette Azoulay de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Alors, bon, je commencerai par dire que je ne suis pas spécialiste de Flaubert et ni de la famille au XIXe siècle, donc je vous demanderai votre indulgence. Ce que je vais proposer, ce sera peut-être davantage des pistes de réflexion qui pourraient être continuées. Alors, tu peux le peindre, il ne bougera plus. C'est par cette remarque cinglante que Christine, la femme du peintre Claude Lantier dans l'œuvre de Zola, invective son mari, qui, juste après la mort de leur fils Jacques, âgé d'une dizaine d'années, se met à en faire le portrait, le visage mort de son enfant exerçant sur lui une étrange fascination. Alors, cette scène, située au chapitre 9 du roman, semble s'inspirer du chapitre 4 de la troisième partie de l'éducation sentimentale, qui voit la mort du fils, encore bébé, de Frédéric et de Rosanette, et l'exécution de son portrait par pèlerin appelé pour l'occasion. Octave Mirbeau, dans un très court récit intitulé L'enfant mort, publié dans le Gil Blas le 3 août 1887, reprendra à son tour ce motif en mettant en scène l'illustre peintre Héroëze exécutant le portrait de son jeune fils qui vient de mourir. Alors, si le motif du portrait d'enfant mort subit des variations d'un texte à l'autre qui en déplacent les enjeux et les significations, les reprises créent néanmoins un jeu d'écho qui se déploie à différents niveaux et interroge tout à la fois une pratique liée au deuil familial, celle du portrait mortuaire, censée garantir le souvenir de l'être cher, mais aussi un médium, c'est-à-dire la peinture ici, celle-ci devant rendre compte des exigences affectives et mémorielles qui sont celles du portrait après décès. Alors plus généralement, la question posée est celle du rôle et de la fonction de l'art face à la mort lorsqu'elle intervient dans un cadre privé, celui de la famille. D'autre part, puisqu'il s'agit dans les trois récits de la mort d'un enfant survenant prématurément dans le cadre familial, et que de ce fait, elle est constitutive d'un drame familial, la mise en scène de cet événement met en lumière la place occupée par l'enfant au sein de la famille et les liens qui l'unissent à ses parents. Or, il est assez remarquable que ces scènes s'appliquent en fait à déjouer assez systématiquement ces questions, ou du moins en déplacer les enjeux. De ce point de vue, elles se construisent sur un horizon déceptif qui bouscule les attentes du lecteur. En effet, la charge pathétique attendue liée à la mort de l'enfant est soit exprimée par des réactions stéréotypées en ce qui concerne les parents, soit reléguée au second plan. Dans l'éducation sentimentale, à la rapidité de l'évocation de la mort et des réactions qu'elle suscite chez Rosanette et Frédéric, qui pensent déjà autre chose, succède la survenue de Pellerin, qui fait office de tiers, contrariant toute forme de recueillement. La construction de la scène s'applique à séparer les différents points de vue et empêche de faire chorus autour de l'événement. Alors que Rosanette s'inquiète de l'avancement du portrait et de sa réussite, et qui finit par sortir de la chambre, excédée par les déblatérations inconvenantes de Pellerin, celui-ci prend à partie Frédéric au sujet des déboires financiers d'Arnoux, ce qui va lui occuper entièrement l'esprit. Dans l'œuvre de Zola, tout comme chez Mirbeau, la tristesse du père est très vite relayée par le travail du portrait, qui requiert toute leur attention. L'exercice les fait pénétrer dans un autre temps et un autre espace, où le deuil ne semble pas avoir sa place. Comme pour Rosanette, la tristesse de Christine se mue en indignation et se déplace vers le portrait en train de se faire, ce qui vaut à Claude la remarque cinglante de sa femme. Alors, dans l'économie des récits, ces enfants n'ont pas ou peu d'incidence sur l'intrigue principale, et leur disparition prématurée en fait des personnages proprement sans histoire. Leur mort apparaît plus encore comme un quasi non-événement. Chez Mirbeau, le moment de la mort de l'enfant est évacué de la diégèse, puisqu'elle survient avant le début du récit et est évoquée dans une rapide analepse. Alors, ce relatif escamotage de la mort de l'enfant rend ainsi problématique sa place au sein de la famille et aussi au sein du récit. Tout se passe comme si, en effet, il ne parvenait pas à faire sujet. Dans les scènes envisagées, l'intérêt romanesque se déplace de la mort de l'enfant. Se déplace de la mort de l'enfant à la peinture de l'enfant mort. La mort de l'enfant constituerait donc davantage un sujet de peinture qu'un sujet narratif. Alors, cependant, si l'intérêt se déplace vers la réalisation d'un portrait, le portrait lui-même, en tant que genre pictural, est mis à l'épreuve tout autant qu'il est soumis à caution. Le genre du portrait est en effet ébranlé si l'on considère que l'enjeu du portrait est de rendre la vie. Dans la critique d'art, l'impression de vie vaut comme trait définitoire du portrait, et les portraits considérés comme ratés sont très souvent comparés à des figures mortes, à des cadavres. Pellerin, dans l'éducation sentimentale, relève cette contradiction en comparant son modèle à une nature morte. On y reviendra. L'enfant mort, en tant que sujet, semble remettre en cause les catégories picturales. Mais plus encore, c'est le médium pictural qui est déstabilisé, notamment par l'intervention des mères dans l'éducation sentimentale et dans l'œuvre, qui jugent la pratique scandaleuse et indécente. Chez Mirbeau, c'est l'ironie du narrateur qui permet de mettre à distance le bien fondé de la peinture dans un tel contexte. Alors, l'ironie qui traverse les trois textes ouvre un espace critique et y introduit une réflexion éthique, morale, au sujet de la peinture lorsqu'elle s'attache à portraiturer un mort. On le voit, ces scènes se construisent sur une série de déplacements qui sont autant d'attentes déçues et qui mettent en tension trois choses, selon moi. Donc, premièrement, une certaine vision de l'enfance, son rôle et sa place dans le cadre familial, la pertinence de l'art pictural lorsqu'il s'attache au portrait mortuaire, et enfin, plus spécifiquement, le rapport au monde et à la réalité qui gouverne le personnage de l'artiste, au sens large, qu'il soit peintre comme Claude, Héroès et Pellerin, pardon, ou qu'il s'y apparente comme Frédéric, dont l'imagination et les rêves ne cessent de compliquer son rapport à la vie. Eu égard à la nature de ces personnages, la paternité là aussi se déplace de l'œuvre de chair à l'œuvre d'art, remettant en cause la possibilité même de faire famille. Donc trois tensions que j'essaierai d'explorer ici. Alors, dans un premier temps, on pourra noter, ce serait ma première partie, que ces enfants ont dans les récits une existence problématique. Alors, on peut rappeler pour commencer que dans l'éducation sentimentale et dans l'œuvre, les passages envisagés ne constituent que des épisodes des romans, qui ne sont pas des romans sur l'enfance. La présence des personnages d'enfants y est en réalité assez anecdotique. Et dans le conte de Mirbeau, malgré son titre, L'enfant mort, l'intérêt se concentre davantage sur l'enfant en tant qu'il est déjà mort et qu'il constitue le prétexte pour son père à en faire le portrait. Alors les enfants dans ces récits sont dotés d'une relative faible consistance narrative. Dans l'éducation sentimentale, et ça a été rappelé au cours du séminaire, le fils de Frédéric n'a aucune incidence sur l'intrigue principale, à tel point que la grossesse même de Rosanette fait l'objet d'une négligence de la part de Flaubert, puisque, comme le signale Pierre-Marc de Biasi, chronologiquement, sa grossesse s'étale sur 2 ans. La vie de l'enfant ne fait pas l'objet de développement particulier. Après sa mort, il n'en sera quasiment plus question, si ce n'est par l'intermédiaire de son portrait, que Rosanette ira voir une fois achevé pour se rendre compte de son inanité. Mais plus encore, son existence en tant qu'enfant semble être niée, puisque pour Frédéric après sa naissance et pour Rosanette après sa mort, il n'est qu'un support de projection, le père comme la mère imaginant sa vie future. Je cite Frédéric dans la troisième partie au chapitre 4, « Puis ses yeux retombaient sur son fils, il se le figurait, jeune homme, il en ferait son compagnon. » Rosanette, devant son fils sur son lit de mort, troisième partie, chapitre 5, elle l'apercevait dans quelques mois d'ici, commençant à marcher, puis au collège, au milieu de la cour, jouant au bar, puis à 20 ans, jeune homme. Donc son existence est reléguée dans la fiction d'une rêverie, qu'il soit d'ailleurs vivant ou mort. L'enfant ne semble pas pouvoir exister en tant que tel, ce qui pose ici la question de la consistance identitaire des très jeunes enfants, lorsqu'ils ne sont pas encore séparés du giron de leurs parents. Alors la symétrie des rêveries projectives de Frédéric et de Rosanette, avant et après la mort, indique assez l'indécision dans laquelle se situe le nourrisson, qui est ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort. Dans l'œuvre, l'enfant de Claude et de Christine est davantage individualisé. Bon, il est nommé, il s'appelle Jacques. Son existence est plus longue, une dizaine d'années, ce qui lui permet un début d'existence sociale puisqu'il va à l'école. Et sa naissance aussi bouleverse la vie du couple. Je cite, dès lors, le petit être révolutionna la maison. Cependant, on remarque vite que son existence piétine. Il naît avec une tare qui l'empêche de se développer normalement. Il ne parlera presque pas. Et les gesticulations de la prime enfance iront s'amoindrissant jusqu'à devenir un être amorphe, proche de l'animalité. Je cite, très doux, craintif, l'enfant s'absorbait pendant des heures sans savoir répondre, l'esprit en fuite, et s'il sortait de cette immobilité, c'était dans des crises folles de sauts et de cris, comme une jeune bête joueuse que l'instinct emporte. Sa tête, disproportionnée, et qui ne cesse de grossir, l'apparente à un fœtus. Donc l'existence de Jacques est une existence à rebours, sa vie est un régrès. L'individualisation est donc incomplète, avortée. Mais il semble que la tare dont il souffre, qui l'empêche d'évoluer, est autant héréditaire et pathologique que narrative, puisque très précisément son existence, la révolution de son existence, se résume à être étouffée par ses propres parents, puisqu'elle dérange le travail de Claude, qui ne peut se concentrer en présence de son fils. Donc la ligne narrative du roman, qui est celle du travail du peintre Claude, ne semble pouvoir s'embarrasser d'un personnage qui la mettrait en péril. De ce point de vue, le roman de la peinture ne peut être le roman de la parentalité. On y reviendra. La naissance de Jacques constitue une sorte d'écart que tout conspire à réduire et qui se clôt très logiquement sur la mort prématurée de celui-ci. Alors chez Mirbeau, le récit débute alors que l'enfant a une dernière convulsion. Son existence est reléguée dans un temps antérieur à la diégèse et se constitue dans les souvenirs fortement stéréotypés de son père. Je cite « En 3 jours emporté, en 3 jours, lui si rose, si vivant, si gai, si gentil, en 3 jours, mais c'est à peine s'il commençait à s'éveiller à la vie. Il n'y avait pas 5 jours qu'il courait, qu'il chantait, qu'il se roulait sur les tapis, les jambes nues, les cheveux bouclés, qu'il jouait dans son atelier avec des bouts d'étoffe, qu'il barbouillait ses petites mains à la palette fraîche. En 3 jours, c'était affreux, impossible. » Donc les souvenirs apparaissent comme une succession de micro-récits, de scénettes enfantines. L'enfant d'Héroès apparaît comme un enfant modèle et plus encore comme un enfant modelé, puisque la précision sur ses jeux dans l'atelier de son père et de ses mains barbouillées de peinture laisse supposer qu'il deviendra peintre comme lui. Alors, comme chez Flaubert, mais aussi chez Zola, Claude se met à voir dans le crâne disproportionné de Jacques les signes du génie à venir. La vie de l'enfant est pensée non dans son présent, mais dans son devenir. De manière explicite, les pensées projectives ou rétrospectives au sujet des enfants en proposent une définition en creux comme double ou comme reflet des parents. Avant la naissance de leur fils, Rosanette rêve d'un second Frédéric, et Frédéric rêve quant à lui d'une seconde Madame Arnoux, hein, mère rêvée de son enfant. Ensuite, Rosanette comme Frédéric imagineront qu'il deviendra un jeune homme, c'est-à-dire ce qu'est précisément Frédéric, hein, qualifié ainsi dès le sous-titre du roman. Jacques, quant à lui, porte les signes du génie qui sont ceux de son père, et le fils d'Héroès ne pourra être que peintre, hein, comme lui. Donc si l'existence effective de l'enfant est quasi nulle, elle semble devoir s'étoffer dans les projections de ses parents, qui lui façonnent une identité entièrement virtualisée et qui semble surtout être régie par des forces narcissiques. Donc les récits traduisent aussi, on le voit, une vision certainement contemporaine de l'enfant, non totalement individualisée et dont l'existence n'a de valeur que dans un devenir hypothétique qui en ferait un double ou une copie des parents. Alors, dans les récits, l'inconsistance de l'existence effective des enfants qui s'oppose à leur existence rêvée, puisqu'ils meurent, tient certainement au milieu dans lequel ils naissent, un milieu qui ne sait pas les accueillir et qui en fait de cette manière des enfants mort-nés. Dans l'œuvre, le petit Jacques est considéré comme un poids, comme une charge, et plus encore comme une potentielle mise en péril des travaux de Claude. Christine, qui est dévouée à son mari, parce qu'elle craint de le perdre à tout moment, n'investit pas son rôle de mère dès le moment de sa naissance. Je cite, la maternité ne poussa pas en elle, malgré son bon cœur et ses désolations, au moindre bobo. Elle se lassait, se rebutait tout de suite. Elle n'était qu'amante, elle aurait donné 20 fois le fils pour l'époux. Alors la vie végétative du petit Jacques, si elle est le symptôme de sa tare héréditaire, est également une conséquence de l'inattention que lui font subir ses parents et de leur injonction permanente à rester tranquille, comme se le rappellera Christine après sa mort. Elle lui avait tant de fois répété quand il jouait « Tiens-toi tranquille, laisse travailler ton père », qu'à la fin il était sage pour longtemps. Cette idée la suffoqua, chaque sanglot lui arrachait un cri sourd. Le remords de Christine explicite le lien de cause à effet qui unit la déperdition de Jacques sa mort. Par ailleurs, dans l'éducation sentimentale, comme dans l'œuvre, ces enfants sont non désirés et leur naissance constitue un accident. La grossesse de Christine est prise sans joie aucune et provoque chez le couple une tristesse sans nom. Dans l'éducation sentimentale, la grossesse de Rosanette apparaît à Frédéric comme un frein à ses ambitions. Cet événement était une calamité qui d'abord ajournait leur rupture et puis bouleversait tous ses projets. L'idée d'être père, d'ailleurs, lui paraissait grotesque, inadmissible. La mort de ces enfants apparaît ainsi comme la conséquence logique de leur avènement dans un cadre qui leur est hostile. Ainsi, ces enfants sont-ils, dès leur naissance, frappés d'une malédiction, explicitement formulée chez Zola comme chez Flaubert, hein, dans l'œuvre, je cite, « Plus tard, quand ils se furent habitués, ils s'attendrirent sur le pauvre petit qu'ils avaient fait sans le vouloir, le jour tragique où elle s'était livrée à lui dans les larmes, sous le crépuscule navré qui noyait l'atelier. Les dates y étaient, ce serait l'enfant de la souffrance et de la pitié. » Dans l'éducation sentimentale, Frédéric explicite à deux reprises le destin tragique de l'enfant. L'illégalité de sa naissance l'opprimerait toujours, mieux aurait valu pour lui ne pas naître. Et après sa mort, son cœur se serrait d'angoisse, il lui semblait que cette mort n'était qu'un commencement, qu'il y avait par derrière un malheur considérable près de survenir. Alors, c'est peut-être dans cette perspective, celle de l'illégitimité et de la malédiction qui pèse sur ces enfants, qu'il faut comprendre que, contrairement aux fantasmes des parents les imaginant comme leur double, ces enfants soient, dans leur réalité, perçus comme des étrangers. L'enfant placé dans un milieu qui lui est hostile se défamiliarise. Frédéric, la première vision qu'il a de son fixe provoque en lui une sorte de répugnance. Hein. Il écarta les rideaux et aperçut au milieu des linges quelque chose d'un rouge jaunâtre, extrêmement ridé, qui sentait mauvais et qui vagissait. L'être nouvellement venu au monde est appréhendé comme un objet, une chose informe, inconnue, indéfinissable. Dans l'œuvre, la maladie dont souffre Jacques le rend non seulement incompréhensible pour ses parents, mais aussi le déshumanise. Hein. On ne pouvait l'envoyer plus de 8 jours de suite à l'école, d'où il revenait hébété, malade, d'avoir voulu apprendre, si bien que le plus souvent, il le laissait vivre à quatre pattes autour d'eux, se traînant dans les coins. Alors, ce milieu hostile aux enfants, qui les fait naître comme déjà morts, qui en fait des étrangers et qui les fait effectivement mourir, c'est dans l'œuvre et dans l'enfant mort de Mirbeau, le milieu de l'art, que Zola envisageait dans ses notes préparatoires comme un monde à part, hein, traversé par les troubles qui secouent le monde moderne. Alors, la condition d'artiste de Claude Lantier le voue à la marginalité, à l'exclusion, à la solitude, et le condamne à un face-à-face quasi exclusif avec son art. Cette exclusivité accordée à la peinture, exprimée tout au long du roman en termes de rapport tyrannique, est la cause de la déperdition puis de la mort de son enfant, qui souffre d'un délaissement hein, que la scansion des « tiens-toi tranquille » rend cruellement explicite. Claude lui-même, à plusieurs reprises, exprime de manière prophétique le lien que son art entretient avec la mort des êtres qui lui sont les plus chers. Hein, au moment de l'agonie de Jacques, Claude souhaite à tout prix se remettre au tableau sur lequel il était en train de travailler. Et je le cite, « Je vais m'y remettre », répéta Claude, « il me tuera, il tuera ma femme, mon enfant, toute la baraque, mais ce sera un chef-d'œuvre, nom de Dieu. » Alors le lien consubstantiel entre le travail de l'artiste et la mort de l'enfant est également exprimé dans le conte de Mirbeau, hein, puisque le peintre, qui s'interroge sur la mort de son fils, mais aussi de sa femme, finit par se rendre à l'évidence. La peinture, mais elle était peut-être la cause de ses malheurs, et il sentit un frisson lui courir sous la peau. La peinture, oui, il avait trop sacrifié l'amour de sa femme et la bienveillance de son enfant. Durant quelques heures, il s'abîma dans cette pensée horrible, et il se convainquit que si, au lieu d'être peintre, il avait été tailleur, avocat, comptable, n'importe quoi, ces deux êtres chéris qu'il avait perdus, qu'il avait tués, car il était sûr de les avoir tués, vivraient encore. La mort de l'enfant, de la femme et de la femme rend sensible l'incompatibilité entre le travail de l'art et la possibilité d'une quelconque vie de famille. Et plus encore, la condition de l'artiste de génie, n'ayant d'autres préoccupations que son art, le condamne au célibat et lui interdit l'amour. Cette impossibilité d'amour hein, est au fondement de la trajectoire de Poussin, le peintre du chef-d'œuvre inconnu de Balzac, qui, s'il se rêve à plusieurs reprises plus amant que peintre, choisira à la fin du conte la peinture, ce qui mettra un terme définitif à sa relation avec Gillette. Hein. L'amour impossible apparaît depuis Balzac comme un motif structurant du roman de l'artiste dans lequel la peinture est pensée comme la rivale de la femme. Alors à ces peintres s'opposent les peintres parvenus et sans talent, embourgeoisés, tel le Pierre Grassou de Balzac, qui est un bon père de famille et qui ne peint que des portraits de famille, d'ailleurs, et dont l'opposition avec les autres peintres clôt la nouvelle. Je cite « Ce peintre, bon père et bon époux, ne peut cependant pas ôter de son cœur une fatale pensée. Les artistes se moquent de lui. Son nom est un terme de mépris dans les ateliers. Les feuilletons ne s'occupent pas de ses ouvrages. Mais il travaille toujours et il se porte à l'académie où il entrera. » Le personnage de Pellerin, dans l'éducation sentimentale, offre une version concentrée et caricaturale de Claude et d'Hervez. S'il n'est pas le père de l'enfant, il n'en reste pas moins qu'il est incapable d'en admettre l'existence au moment de sa mort, seulement inquiet du tableau qu'il pourra en tirer. Il outre ainsi ce qui caractérise les personnages de peintres, hein, c'est-à-dire le détournement jusqu'à la négation de la réalité. Ainsi, l'existence des enfants dans ces textes est rendue problématique non seulement par leur nature d'enfant, qui peine à se définir et qui les mène du côté d'une paradoxale étrangeté, mais aussi par le milieu particulier qui les voit naître et qui appose sur eux le sceau d'une malédiction. Significativement, l'enfance maudite semble introduire une faille dans le cours du temps, par sa courte existence d'abord, mais aussi parce qu'il ne semble pouvoir évoluer que dans un futur ou dans un passé. La maladie qui touche Jacques, mais aussi le petit Frédéric, qui l'amaigrit, blanchit sa peau et l'empêche de boire, semble les condamner à un retour à un stade antérieur par une régression qui les rapproche du fœtus. Ils évoluent dans un temps qui ne passe pas, phénomène que la mort vient couronner et qui de fait leur ôte leur qualité de sujet vivant pour les faire devenir des objets immobiles et donc des morceaux de choix pour la prédation de la peinture. Tu peux le peindre, il ne bougera plus. Alors ça m'amène à mon deuxième point, peindre un enfant mort. Alors, la mort des enfants semble en effet n'advenir que pour laisser libre champ à la peinture, à l'exécution de leur portrait. La structure de ces épisodes, nettement séparée en deux moments, hein, la mort puis l'exécution du portrait du mort, montre assez la prédominance de l'un sur l'autre et donc de fait que la mort de l'enfant n'est qu'un prétexte à la peinture, à la réalisation du portrait concentrant tout l'intérêt narratif de ces épisodes. Dans l'éducation sentimentale, pourtant, le portrait de Pellerin est un échec monumental et apparaît à Rosanet comme une chose dérisoire. Chez Mirbeau, le portrait final n'est pas même évoqué, car le récit se développe sur le portrait qu'envisage de réaliser Héroëz. Alors c'est plus compliqué dans l'œuvre, puisque le portrait de Claude est une réussite qualifiée de chef-d'œuvre. Pourtant, le portrait qu'il intitule L'enfant mort sera hué par le public du salon. De manière plus précise, il me semble, Zola interroge ici les critères qui président à la réussite d'un portrait mortuaire. Alors, le genre du portrait mortuaire est un genre particulier qui répond à un cahier des charges précis, rappelé d'ailleurs par Rosanette, qui souhaite que le portrait de son enfant soit d'une part ressemblant, et d'autre part, qui lui permettent de conserver, dit-elle, son fils, c'est-à-dire d'en perpétuer la mémoire. Donc, le portrait mortuaire s'inscrit dans la tradition des effigies funéraires, et donc votive, et en fait, de fait, un art de la mémoire. Plus généralement, le portrait mortuaire interroge les fonctions de l'art, les fonctions de l'art de représenter, hein, par rapport à la mort. Alors, force est de constater que dans nos scènes, dans l'éducation sentimentale comme dans l'œuvre, ces fonctions essentiellement mémorielles du portrait sont totalement dévoyées et qu'elles sont complètement évacuées du récit de Mirbeau, hein, puisque le tableau n'est pas réalisé dans la diégèse et surtout parce qu'aucune motivation quant à la réalisation de ce portrait n'est explicitée. De ce point de vue, pardon, on notera peut-être la faible teneur réaliste de ces scènes, dont l'enjeu et les significations semblent devoir se déployer au-delà d'une fidèle restitution des pratiques funéraires qui étaient celles de l'époque. Bon, d'ailleurs, on n'aura pas de scène d'enterrement, on n'aura pas de développement sur le deuil dans ces récits. L'intérêt, encore une fois, se situe ailleurs. Alors, si Henri Mitterrand relève dans son édition de l'œuvre l'existence d'un portrait d'enfant mort peint par Dubois-Pillé et exposé au Salon des Indépendants en 1984, comme source potentielle de la scène du chapitre 9 de l'œuvre, ce type de portrait peint, tel que décrit dans nos récits, hein, des portraits de face du mort, était en réalité assez peu pratiqué. Emmanuel Pernoud, dans son ouvrage L'enfant obscur, précise que pour tout le siècle, les catalogues des salons ne référencent que 19 portraits d'enfants morts. Alors, il est probable, cependant, que de tels tableaux restaient dans le cadre privé et n'étaient pas exposés. L'exposition de tels tableaux, comme le montre exemplairement Zola dans tout le chapitre 10, qui décrit les aléas de son tableau dans le salon, en déplace la réception et donc en modifie radicalement la nature. L'exposition d'un tel tableau, qui doit originellement entretenir le souvenir d'un être disparu et soutenir le deuil, puisqu'elle le décontextualise, lui ôte de fait sa dimension mémorielle et sa charge pathétique pour lui en y attribuer une autre, essentiellement esthétique. Alors le chapitre 10 de l'œuvre, qui fait suite à la mort de l'enfant et l'exécution de son portrait, explicite cette dialectique propre au portrait mortuaire. Aux yeux des membres du jury, du salon, mais aussi aux yeux du public, Jacques, l'enfant mort, n'est plus qu'un tableau d'enfant mort, totalement déférentialisé, et devient, dans la bouche de Fagerolles, qui essaie de faire accepter le tableau de son ami, je cite, ce petit rigolo d'enfant mort, ou encore, pour le jury du salon, la grosse tête d'un singe crevé d'avoir avalé une courge, métaphore déformante hein, qui finit d'emporter son référent. Donc le tableau ne rend disponible aux yeux étrangers que sa surface, forme et couleur. De manière assez systématique, ces reproches qui concernent la manière du peintre et le sujet du tableau, en tant que sujet de peinture, oublieuses de ce qui les motive, sont mises en regard des pensées de Claude et de la tristesse que le tableau provoque en lui. Les sentiments sont en effet pour la première fois dans le roman moins ceux de l'artiste qui échoue que ceux du père. L'enfant mort n'est pour Claude pas seulement un tableau, mais aussi l'image de son fils tel qu'il était au moment de sa mort. Lui, pourtant, l'évoquait, le retrouvait là-bas, à la campagne, frais et rose, quand il se roulait dans l'herbe, puis rue de Douai, peu à peu pâli et stupide, puis rue Tourlaque, ne pouvant plus porter son front, mourant une nuit tout seul pendant que sa mère dormait. Donc le regard du père creuse la surface du tableau et lui octroie une profondeur, hein, celle que remplit la biographie de Jacques. Alors la place qu'occupe le tableau sur les cimaises du salon thématise d'ailleurs à elle seule cette dialectique si particulière du portrait. Il est placé en haut du mur parmi d'autres tableaux et il est impossible de bien le voir. Je cite « Ah, l'enfant mort, le misérable petit cadavre qui n'était plus à cette distance qu'une confusion de chair échouée de quelque bête informe. » Pardon. La carcasse de quelques échouée de quelques bêtes informes. Claude s'approcha, se recula pour mieux voir. Le jour était si mauvais que des reflets dansaient dans la toile de partout. Son petit Jacques, comme on l'avait placé. Alors la place du portrait thématise le double regard qu'il appelle et problématise ce qui fait varier sa nature et ses fonctions, à savoir la perspective qu'emprunte le regard face à un portrait de mort. Un souvenir efficace et douloureux pour celui qui le regarde en face, forme répugnante pour celui qui l'appréhende de côté. Le genre du tableau d'enfant mort semble donc être porteur d'une contradiction qui se loge dans le regard de son spectateur et qui met en tension l'instabilité qui est celle de la portée des images. Donc paradoxalement, un portrait d'enfant mort ne peut atteindre son but que lorsque sa valeur esthétique s'atténue. Dans le cas de Claude, le tableau est pour la première fois dans le roman plus l'œuvre du père que celle de l'artiste. De fait, la peinture en tant que médium n'est peut-être pas le support le plus adéquat de l'art funéraire, trop enchaîné à sa manière et à son esthétique. Alors cette tension avait déjà été exploitée par Flaubert dans l'éducation sentimentale de manière caricaturale, hein, dans le conflit qui oppose Rosanette à Pellerin. De manière significative, Rosanette, à la mort de son fils, qui souhaite, dit-elle, le conserver, n'envisage pas pour cela le portrait peint. Elle s'y résout cependant, hein, sur les conseils de Frédéric, mais c'est pour mieux constater l'inanité profonde du médium et sa dérision. Alors, en effet, la fonction votive et mémorielle attendue est totalement déviée par le travail de Pellerin, qui non seulement travaille pour son propre compte, puisqu'il souhaite éprouver sa manière et ses théories sur l'art, dans un rapport narcissique à sa pratique, mais parce qu'il ne voit dans le petit mort qu'une forme plastique censée faire œuvre. L'enfant mort est en effet envisagé à l'aune de l'histoire de l'art. Je cite, mais peu à peu, l'artiste en lui l'emportant, il déclara qu'on ne pouvait rien faire avec ses yeux bistrés, cette face livide, que c'était une véritable nature morte, qu'il faudrait beaucoup de talent. Juste après, au souhait de Rosanette que le portrait soit au moins ressemblant, Pellerin répond, et je me moque de la ressemblance, ah bah le réalisme, c'est l'esprit qu'on peint. Donc le décalage est ici terrible et la décontextualisation du sujet complète. L'enfant n'est vu que comme un tableau potentiel, un tableau d'art. Pourtant, les atermoiements et les hésitations de Pellerin mettent le doigt sur la contradiction intrinsèque du portrait qu'on lui demande d'exécuter. L'art de peindre, conçu étroitement comme une somme de recettes esthétiques, de formules historiques galvaudées, hein, il fait référence ensuite au petit Saint-Jean de Corrège, à l'Infante Rose de Velasquez, au Cher Lacté de Reynolds, est incapable de rendre d'une part la chair morte, jugée comme laide et contraire aux fonctions que revêt dans les traités esthétiques la couleur, hein, dévolue au rendu de la vie, et d'autre part la singularité du modèle. si bien que l'exigence de ressemblance, qui est l'une des prérogatives du portrait, ne peut être atteinte. De fait, Pellerin s'engage dans un travail impossible et qui s'achèvera, très logiquement, par un ratage monumental. Ainsi, deux conceptions de l'art s'affrontent, l'une tendue vers sa dimension esthétique, l'autre vers une dimension que l'on pourrait appeler anthropologique. Et c'est bien dans ce sens qu'il faut interpréter le premier souhait de Rosanette. Nous le conserverons, n'est-ce pas? Elle désirait le faire embaumer. Alors, souhait qui peut paraître étrange, mais en fait qui ne l'est en réalité pas tant que cela. Il s'agit de mettre en exergue la fonction mémorielle et commémorative de l'art lorsqu'il s'attache à la représentation des morts. Alors historiquement, la pratique de l'embaumement dans un cadeau privé est rare, comme nous l'apprend Philippe Ariès dans L'homme devant la mort, et surtout pratiquée dans les milieux favorisés de l'Ancien Régime. Hein. Madame de Staël rapporte la rumeur selon laquelle son père Jacques Necker, ministre de Louis XVI, avait fait momifier sa mère et la gardait auprès de lui. En réalité, la rumeur vient du testament laissé par la mère dans lequel elle laisse des instructions pour être conservée dans l'alcool, ayant trop peur d'être enterrée vivante. Alors, plus largement, il faudrait mettre en rapport la référence à l'embaumement avec les productions de l'art funéraire, comme les masques mortuaires issus de la technique du moulage, ou les gisants, les figures de cire ou les statues de cimetière que l'on a longtemps appelées des momies de comte. En fait, toute production artefactuelle dont la dimension esthétique ne fait pas écran, n'aveugle pas et ne secondarise pas son modèle. Selon Philippe Ariès, se met en place aussi au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle plus précisément, ce qu'il appelle un culte maniaque du souvenir des morts, dont on conserve les cheveux pour s'en faire des bijoux, ou des mouchoirs tachés de sang, hein, qui sont placés dans des cadres. On garde aussi les garde-robes ou n'importe quel objet ayant appartenu au défunt. Alors ce culte, qui est celui de l'objet trace en réalité, dont la valeur tient aux liens consubstantiels qui les relient à ceux qui les ont possédés, favorise non seulement le souvenir, mais aussi l'investissement affectif de ceux qui les conservent et les apparente à des reliques. Alors cette obsession de l'époque, hein, pour ces reliques familiales et profanes, en particulier dans le milieu bourgeois, sera l'objet de vives critiques, hein, que l'on songe à Huysmans, par exemple, dans un célèbre passage d'En route, où il s'agit de fabriquer, je cite, des concentrés d'aïeux, des essences d'enfants, des bouquets de pères pour les réduire en sauce et pour les manger. Alors, on peut songer également à des romans comme Bruges la morte, hein, de Rodenbach, ou encore à Vera de Villiers-l'Isle-Adam, où le culte du souvenir se mue en fétichisme pathologique. Alors, le rêve de momie de Rosanette s'inscrit dans cette tradition et rappelle, de ce point de vue, peut-être l'empaillement du perroquet de Félicité dans Un cœur simple, qui est comme son fils. Le souvenir de son enfant doit se perpétuer dans la trace, le reste, le reliquat, dans le témoignage direct de son existence passée. On remarquera que les objets ou les images qui nourrissent ce culte et qui doivent garantir l'existence de ce qui a été sont précisément des indices au sens sémiologique du terme, en ce sens qu'ils entretiennent avec leur référent un lien physique direct, comme le mouchoir taché de sang ou les mèches de cheveux, ou indirect, comme les vêtements. Dans le cadre du culte des morts, les indices sont privilégiés pour leur capacité à réduire l'écart entre le signe et le référent, et de fait pour leur faible degré de représentativité. Alors, si la mention de la momie dans l'éducation sentimentale est largement improbable, elle apparaît comme emblématique de cette logique du culte rendu aux morts et prend de fait une valeur critique en créant une opposition radicale avec le tableau de peinture tel que l'envisage Pellerin. C'est le moyen pour Flaubert de mettre dos à dos deux approches des images. Alors, de ce point de vue, il est étonnant de remarquer que la double exigence de Rosanette, la conservation de l'objet trace et la ressemblance, correspond à deux régimes sémiotiques différents de l'image, c'est-à-dire l'indice, la trace, et l'icône, la ressemblance analogique, deux qualités que possède précisément l'image photographique. Et le genre de la photographie post-mortem, et en particulier d'enfants, est un genre florissant dans la seconde moitié du XIXe siècle, d'abord réalisé par des professionnels, puis à partir des années 1880, avec la démocratisation de la technique, par les membres de la famille du mort. Alors, la pratique devient rapidement banale, hein. Un chroniqueur du journal La Lumière, le 8 mai 1858, relève de manière amusée les inscriptions qui se répandent sur les vitrines des photographes, hein, portrait après décès ou avant, au choix, et de fait connaît une évolution importante. Alors, on observe trois tendances dans la photographie post-mortem. Photographier l'enfant sur son lit de mort, entouré de fleurs et de ses jouets, éclairé de telle sorte qu'il paraisse endormi, donc ce qui est une manière d'euphémiser la mort, hein. Et ici, la photographie reprend les codes de la peinture en réalité et ressemble, cette mise en scène ressemble à celle que Rosanette opère, met en place pour le portrait de son fils. Deuxième tendance serait de photographier l'enfant en situation de vie, assis sur les genoux de sa mère, jouant à la poupée, lisant un livre. Et ces mises en scène qui peuvent nous apparaître aujourd'hui très macabres, hein, et dont les images sont parfois difficiles à regarder, s'expliquent en partie par le fait que, en ce qui concerne les très jeunes enfants, la famille n'avait pas eu le temps d'obtenir des portraits d'eux vivants. Donc il s'agit de combler ce manque par des portraits qui pourront s'intégrer aux albums de famille. L'idée ici semble non plus d'euphémiser la mort, mais de la nier et d'inventer des moments de vie passée qui n'ont pourtant pas eu lieu. Et de manière très particulière, la photographie ne témoigne pas ici d'un ça a été, pour reprendre l'expression de Barthes, mais plutôt d'un ça aurait pu être. Et donc la fonction testimoniale et indiciaire de la photographie est ici singulièrement déviée, mise au service d'une fiction à même de nourrir le récit familial. Alors ces photographies qui, par leur mise en scène, offrent un mixte de réalité et de fiction, voués à conjurer la perte de l'être cher, mettent en forme, en réalité, ce que Rosanette imagine devant le cadavre de son fils, qui commence à se détériorer. Tous les quarts d'heure, à peu près, Rosanette ouvrait les rideaux pour contempler son enfant. Elle apercevait dans quelques mois d'ici, commençant à marcher, puis au collège, au milieu de la cour, jouant au bar, puis à 20 ans, jeune homme, et toutes ces images qu'elle se créait lui faisaient comme autant de fils qu'elle aurait perdus, l'excès de la douleur multipliant sa maternité. Donc la succession de ces scénettes qui mettent en scène son fils dans différentes situations de vie, par les énumérations, par les parties présentes ici qui figent le procès-verbe, mais aussi par la dynamique de multiplication des images, construit cette rêverie comme un album intérieur qui s'apparente à un album photographique. Très ironiquement, ces images rêvées apparaissent plus vraies que le tableau raté de Pellerin. Alors, dans l'œuvre, le portrait de Jacques n'est pas une photographie. Pourtant, le sujet semble imposer à la peinture du père une coïncidence inédite entre l'objet et sa représentation, comme le remarque son ami Sandoz. C'était un des bons morceaux de jadis, un chef-d'œuvre de clarté et de puissance, avec une immense tristesse en plus, la fin de tout, la vie mourant de la vie de cet enfant. Donc, contrairement aux autres tableaux de Claude, qui sont à la recherche d'une nouvelle formule esthétique, le tableau de son enfant mort se rapproche au plus près de son sujet et est capable par là de transmettre le sentiment de la perte. Contrairement aux autres tableaux, celui-ci est réalisé en quelques heures et n'est pas à la recherche d'un effet. On distinguait les yeux clairs et fixes, on reconnaissait une tête d'enfant, le cas de quelques maladies de la cervelle, d'une profonde et affreuse pitié. Le tableau de Claude touche ici à une vérité de la peinture lorsqu'elle ne tente pas de travestir son sujet et permet une reconnaissance. Le comte de Mirbeau, on l'a vu, ne repose pas sur cette structure oppositionnelle et n'envisage de fait pas le portrait mortuaire dans sa fonction votive et mémorielle. Le comte se concentre sur ce qui est à la source de la cruauté des épisodes de Flaubert et de Zola, sans la nuancer, c'est-à-dire la tyrannie exercée par la peinture, qui conduit les personnages de peintre dans une forme de folie, hein, celle par laquelle la réalité est oubliée au profit des chimères de l'art. Alors, ça m'amène à mon troisième point, l'enfant peinture. Alors, les trois récits se concentrent, en la dramatisant, sur l'impossibilité ou la difficulté pour le personnage de peintre, qui est père chez Zola et chez Mirbeau, à s'extraire de sa condition de peintre et, dans le cas de la mort de l'enfant, à regarder la mort en face, le regard de l'artiste étant toujours un regard au second degré, dévié de la réalité. Le peintre peut-il ainsi rester père? Alors, si Frédéric Moreau, dans l'éducation sentimentale, n'est pas le peintre qui exécute le portrait de l'enfant mort, hein, il partage cependant avec Pellerin une certaine conception de la réalité, une conception déformante qui fascine et arrange Frédéric, hein, comme nous l'apprend, entre autres, la scène du dîner chez Arnoux au chapitre 4 de la première partie, lorsque Pellerin déclame contre la hideuse réalité et qu'il défend une définition de l'art comme asservissement de la réalité à la toute-puissance de celui qui l'aperçoit. Une théorie qui grandit et justifie, en quelque sorte, la passion impossible que le jeune homme voue à Madame Arnoux. La posture que Pellerin adopte face à la réalité dans notre scène, qui est un rapport faussé, en ce qu'il superpose à la vue de l'enfant mort un tableau virtuel, fondé sur les clichés de l'histoire de l'art, offre le reflet caricatural du travail opéré sur la réalité par les rêves et les fantasmes de Frédéric, qui, tout au long du roman, concourt à faire de la réalité une série de tableaux, dont le fond est toujours occupé par le spectre désirable de Madame Arnoux, hein, figure fétichisée et idolâtrée, dont la présence virtuelle reconfigure, jusqu'à parfois la nier, la réalité vue et vécue. Alors, cette propension à faire du monde le reflet de ses désirs affecte également Claude Lantier, pour qui la réalité, est en particulier, et en particulier la réalité de sa femme, ne devient sous son regard que matière à peindre, forme de distorsion, hein, qui constitue le drame de ce roman. Aussi, pour ces personnages, la réalité n'existe pas, ou du moins elle n'existe pas en tant qu'elle est travaillée, remodelée, reconfigurée par la perception qu'ils en ont, et donc lorsqu'elle est compliquée par les désirs, les illusions et les fantasmes qu'ils nourrissent à son sujet. Et c'est bien ce rapport ambigu à la réalité que les trois scènes de portrait dramatisent, en insistant sur le passage d'un état, celui d'homme ou de père, à un autre, celui de peintre. Chez Flaubert, hein, c'est très net, le regard attristé de Pellerin sur l'enfant laisse bien vite place à son regard de peintre. Pauvre petit ange, ah mon Dieu, quel malheur! Mais peu à peu, l'artiste en lui l'emportant, il déclara qu'on ne pouvait rien faire avec ses yeux bistrés, etc. Chez Zola, lorsque Claude commence à peindre Jacques, je cite, pendant les premières minutes, ses larmes l'empêchaient de voir. Noyant tout d'un brouillard, il continuait de les essuyer, s'entêtait d'un pinceau tremblant, puis le travail sécha ses paupières, assura sa main, et bientôt il n'eut plus là son fils glacé, lui, il n'eut qu'un modèle, un sujet dont l'étrange intérêt le passionna. Chez Mirbeau, « Que vais-je devenir maintenant ? Soupira-t-il accablé. Je n'ai plus rien. » Peu à peu, ses yeux perdirent leur expression de douleur, et peu à peu, ce regard, tout à l'heure angoissé et humide, eut cette concentration, cette tension de toutes les forces visuelles qui font brider l'œil du peintre quand il se retrouve en présence d'une nature qui l'intéresse. Alors, les personnages de peintre sont des êtres profondément doubles, et cette dualité qui se loge dans leur regard fissure le réel. Le corps de l'enfant cesse d'être un corps réel et devient un modèle, l'ébauche de l'œuvre à venir, un dessin virtuel. Ainsi, pour Claude, la tête de Jacques offre un dessin exagéré, ses chairs un ton de cire. Pour Pellerin, le visage mort de l'enfant lui rappelle une nature morte. Et de la même façon, son fils n'est plus pour Héroès que ton, beauté, délicatesse et finesse des lignes et des couleurs. Je cite, « Quel ton, ah sacristie, quel ton !» traçant ensuite avec le doigt un long cercle aérien qui enveloppait le front, la joue de l'enfant et une portion de l'oreille, il se parla à lui-même, « La beauté de ça, hein ? Non mais l'étrange de ça, la finesse, la délicatesse de ça, ah matin, il touchait le nez, dont les narines pincées n'étaient plus que deux petites barres violettes, le ton de ça s'est inouï, il indiquait l'ombre sous le menton, levé, une ombre transparente d'un rose bleu. » Alors il s'agit d'une opération de transformation, quasi de métamorphose, quasi magique, par laquelle le réel est littéralement remodelé par le regard du peintre. La réalité est ici secondarisée et se virtualise entièrement, se déréalise et change de manière problématique de nature dans une dynamique qui est celle de l'absorption de la réalité par l'art. Alors, cependant, la matière sur laquelle travaillent les peintres n'est pas ici la vie, mais la mort. Ce qui est une manière de saper à la racine une définition ancienne de l'art figuratif et en particulier du portrait comme opération de transfert de la vie du modèle au tableau, conduisant à la mort du modèle. Hein, qu'on songe au portrait ovale d'Edgar Poe, au portrait de Dorian Gray, de Wilde, ou encore au portrait de Gogol. Alors, plus encore, en délestant la peinture de portrait de ses enjeux traditionnels, c'est-à-dire rendre la vie, en confisquant à ses portraits toute motivation autre que celle de faire œuvre, et donc en révélant l'illusion dont l'opération procède, ces textes mettent à nu toute la folie des peintres, ainsi que le maléfice qui est à la source de l'acte créateur, c'est-à-dire la négation de la réalité, qui les conduit dans le royaume des simulacres, hein, des ombres et des morts. Alors, dans l'œuvre de Zola, la réussite, quoique partielle, de l'enfant mort s'inscrit en porte-à-faux avec les autres tableaux de Claude qui tentent de reproduire la vie et la chair féminine. Donc, c'est cette ambition, hein, qui est à la source de tous les échecs du peintre. Mais très ironiquement, le cadavre apparaît comme un modèle parfait pour le peintre, parce que le corps mort est un corps qui, sans qu'on lui demande, prend la pose, hein, et cela, évidemment, s'oppose à cet épisode où le petit Jacques, qui était encore vivant, n'arrivait pas à se faire peindre par son père parce qu'il bougeait trop, justement. Le corps mort est un corps qui est devenu un objet et qui, par la maladie ou par la décomposition des chairs, est devenu matière picturale, apte à être modelé. Le corps mort impose à la folie démiurgique du peintre une forme de régulation, d'équilibre dans la réalisation de son œuvre. Alors, dans ce contexte, ce n'est pas un hasard si, chez Flaubert, le tableau que produit Pellerin n'existe justement pas en tant que tableau imageant, en tant que forme iconique, mais simplement en tant que surface colorée. Elle alla chercher le portrait, le rouge, le jaune, le vert et l'indigo s'y heurtaient par taches violentes, en faisaient une chose hideuse, presque dérisoire. Apposer à la réalité le sceau de l'art condamne l'artiste, on le voit, à ne produire en retour que des taches de couleur, rendant le réel méconnaissable. Alors, chez Mirbeau, les dernières phrases du conte laissent significativement le lecteur dans la projection de ce tableau et donc dans le délire du peintre. Héroès se recula, cligna de l'œil, mesura de ses deux mains levées l'espace que le motif prendrait dans la toile, et il dit « Une toile de vin, c'est superbe, nom de Dieu ». Le portrait de l'enfant mort place donc les créateurs dans une aporie qui semble devoir mettre au jour l'impuissance fondamentale sur laquelle est fondée l'ambition de l'art figuratif telle qu'elle est mise en scène dans ses récits. Chez Zola, l'exercice créatif du peintre est constamment mis en relation avec l'acte d'enfanter, comme le montrent assez les différents titres hein, envisagés au moment de la rédaction. Faire un enfant, faire de la vie, enfantement, parturition, ou encore les notes du dossier préparatoire appelé plan général, jeunesse de l'œuvre d'art, la nature embarrassée, embrassée et jamais vaincue, lutte de la femme contre l'œuvre, l'enfantement de l'œuvre contre l'enfantement de la chair. Le conflit repose sur la volonté de confiscation par Claude du processus organique de l'enfantement pour la réalisation de son art. Le travail artistique est ainsi perverti, car il est conçu comme une reproduction non plus mimétique, mais physiologique. La reproduction physiologique est en retour pervertie, parce que l'énergie érotique qu'elle suppose fait l'objet d'un transfert dans le travail artistique. Donc, cette collusion problématique explique certainement que les tableaux de Claude, tout comme son fils, soient des productions avortées, inachevées, malades. Jacques est le fruit de l'échec du salon, et ces tableaux sont le fruit d'un désir érotique dirigé vers un objet qui ne peut les satisfaire. Donc, on a une dynamique du désir frustré hein, et de l'inassouvissement que l'on retrouve, il me semble, dans l'éducation sentimentale sous d'autres modalités. L'enfant de Rosanette et de Frédéric est aussi le fruit du désir inassouvi de Frédéric pour Madame Arnoux, ce qui, de manière symbolique, en fait également un être inachevé. Et significativement, cet inassouvissement du désir, qui constitue à bien des égards le drame de l'éducation comme sentimentale comme de l'œuvre, trouve à s'exprimer discrètement, mais régulièrement dans des métaphores et des sous-entendus qui indexent l'impuissance de ces personnages. Dans l'œuvre, lorsque Claude travaille à ses tableaux de femmes nues, je cite, de sa brosse trempée de couleurs, il arrondissait à grands coups des formes grasses, le geste éperdu de caresses. Il avait un rire immobile aux lèvres et il ne sentait pas la cire brûlante de la bougie qui lui coulait sur les doigts, tandis que silencieux, le va-et-vient passionné de son bras remuait seul contre la muraille, une confusion énorme et noire, une étreinte emmêlée de membres dans un accouplement brutal. C'était la femme nue qu'il travaillait. Le travail du tableau est ici comparé à la caresse de la chair féminine, un accouplement fictif et impossible, tout autant qu'à un plaisir solitaire. Dans l'éducation sentimentale, de nombreuses descriptions du paysage, notamment, sont fortement érotisées, tout comme les décors ou les objets qui prennent aux yeux de Frédéric les formes féminines de Madame Arnoux, qui apparaît toujours comme un point de fuite. Cependant, certains doubles sens viennent encore plus frontalement révéler la dynamique d'inassouvissement qui régit le rapport au monde de Frédéric. Au chapitre 5 de la première partie, Frédéric apprend par Ussonnet qu'Arnoux est parti pour l'Allemagne. Il met alors tout en œuvre pour rester à Paris et déjoue les pressions de sa mère dans le but de se rendre chez Arnoux et se retrouver pour la première fois seul avec Madame Arnoux. On le sait, le projet ne réussit pas et c'est Arnoux lui-même qui ouvre la porte, l'air embarrassé puisqu'il reçoit une maîtresse. Mais la déception était annoncée dès le début de l'épisode alors qu'il sonne à la porte et que personne ne répond. Je cite, il monta vivement l'escalier, tira le cordon de la sonnette, elle ne sonna pas. Il se sentait près de défaillir, puis il ébranla d'un coup furieux le lourd gland de soie rouge. Donc le passage fortement sexualisé, Frédéric se fait également voyeur hein, en regardant par le trou de la serrure, rend compte assez clairement de cette érotique déceptive qui caractérise le roman. Le désir frustré de Frédéric et de Claude engendre un retour à soi narcissique et les voue à une sexualité stérile, les condamne à un perpétuel onanisme. Et plus encore, ces métaphores et doubles sens, dans l'œuvre comme dans l'éducation sentimentale, contribuent à miner toute tentative d'accomplissement du désir et donc toute tentative d'enfantement, hein, qu'il soit charnel ou pictural. Alors, je conclurai en disant que les scènes envisagées se déploient dans un réseau assez dense de significations hein, que j'ai essayé d'expliciter. Mais on voit que si la reprise du motif inauguré par Flaubert ne doit pas être appréhendée comme de simples réécritures, hein, puisque chez Zola comme chez Mirbeau, la scène s'enrichit de nouveaux sens et de nouvelles variations, il n'en reste pas moins qu'elles font émerger des interrogations originales, tout à la fois sociales et anthropologiques, esthétiques et poétiques. Hein. D'abord, la vision de l'enfance qu'offrent ces textes est, on le voit, à l'opposé d'une vision idyllique, rousseauiste ou romantique de l'enfance, ou encore des définitions qu'en donnaient les traités d'éducation qui se développaient à l'époque. L'enfance en régime réaliste naturaliste est, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Pernoud, une enfance obscure qui se révèle dans toute son étrangeté, sa distance, son opacité. La mort de l'enfant, qui constitue un accident, conduit toujours selon Emmanuel Pernoud à dégriser le regard et à voir la mort en face. Flaubert, Zola et Mirbeau, en créant un espace critique qui oppose la mort et l'artifice que constitue sa représentation, permettent ainsi de mettre en lumière ce que l'événement de la mort d'un enfant garde d'impénétrable. Ensuite, ces textes, en prenant pour sujet le portrait, et plus particulièrement le portrait mortuaire, s'interroge avec force sur les pouvoirs de l'art et plus précisément sur sa portée. En désolidarisant de manière assez remarquable le médium et l'image, ces textes nous invitent à déverrouiller les procédures toujours complexes hein, qui président au phénomène de la représentation. Je vous remercie.